Yep, already.
Bonjour et bienvenue dans Encore heureux. Depuis qu'il a écrit son autobiographie en 6 volumes, intitulée Mon combat, on dit de Karl Ove Knausgård qu'il est le Marcel Proust norvégien. 6 volumes, 3000 pages. C'est un gros livre sur ma vie, ironise l'écrivain, aussi gonflé de doutes que le Mein Kampf d'Hitler en est dépourvu. Publié entre 2009 et 2011, Le combat de Knausgård lui a apporté à 50 ans une reconnaissance internationale. À l'origine, une frustration liée à son père. Depuis des années, explique-t-il, je voulais écrire sur la mort de mon père. J'ai tout essayé, rien ne fonctionnait. C'était comme si je n'y croyais pas. Et puis j'ai commencé à écrire quelque chose de totalement différent, une sorte de confession, où je disais tous les secrets que je n'avais jamais racontés. L'esthétique n'avait plus d'importance. Et c'est comme si une énergie se dégageait. Je me suis mise à écrire très vite. Je me suis fixé une règle. Écrire 5 pages par jour. Produire, sans faire attention à la qualité. Quand tu fais ça, des choses se passent. Et puis j'ai encore accéléré. Je suis montée jusqu'à 20 pages par jour. J'ai écrit un passage de 50 pages en une nuit. Knausgård déverse son existence dans tous les détails, du plus trivial au plus grave, de la texture des cornflakes au nez cassé du cadavre de son père, de l'éblouissement amoureux à l'ennui du change des couches de sa fille et des promenades en poussette. Il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mon combat ressemble à un gigantesque blog, sans aucune forme de construction littéraire. C'est mal écrit, plein de clichés et de digressions qui ne mêlent nulle part. Quand Knausgård fait les courses, il en tire 20 pages. On n'y trouve ni style, ni tension narrative, ni volonté d'être drôle ou spirituel. Mais on y trouve tout le reste. Les 1000 détails anodins d'une existence, cet étrange désir de voir à quoi ressemblera le jour d'après, alors que celui d'avant était somme toute sans grand intérêt. Mon combat est un chef-d'œuvre inexplicable, hypnotique, même quand il est ennuyeux. Knausgård ne s'est jamais relu. Le texte est plein de phrases naïves, de poncifs, dit-il. Je ne le supporte pas. J'ai été très tentée de réécrire, mais je ne l'ai pas fait. Je me souviens avoir envoyé un premier passage à mon éditeur. Je mourais de honte. J'avais peur qu'on me croie stupide. Mais c'est là que le livre trouve sa force. J'étais fatiguée de l'écriture, du style trop travaillé. Ça crée une distance par rapport au monde, à tel point que le monde finit par disparaître. On finit par faire de la fiction. Et j'ai ce sentiment que le monde est en train de disparaître sous la fiction. Je me suis dit que j'allais écrire sur l'insignifiant, le petit, même si c'est ennuyeux, même si ça n'est pas digne d'être raconté. Souvent, les écrivains fabriquent une imitation de la vie à partir d'un point de vue philosophique. J'ai fait l'inverse. Quand ça débouche sur quelque chose de sérieux, ça vient de la vie elle-même. Dans la vie, tout se mêle. On pense à Hölderlin en faisant les courses. On se contredit sans cesse. Encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. En Norvège, Karl Ove Knausgård a vendu 500 000 livres pour une population de 5 millions d'habitants, ce qui revient à dire qu'un Norvégien sur 10 a acheté son livre. Le succès s'est propagé à toute la Scandinavie. Dans les familles, au bureau, la vie de Knausgård est devenue un sujet de conversation. Dans un pays, la Norvège, où l'habitude de ne pas parler de soi, Knausgård s'est livré à un tel point que n'importe quel lecteur a l'impression de le connaître mieux qu'un oncle ou un cousin. Puis Mon combat a été publié dans le monde entier, aux États-Unis, Nosegard est devenue une véritable star du jour au lendemain. En France, l'incroyable opus est publié chez De Noël. Le cinquième tome, intitulé « Comme il pleut sur la ville », est paru en janvier. J'oublie que les gens que je rencontre en savent tant sur moi. Je le sais, mais je n'y pense pas. Quand je m'en rends compte, c'est trop embarrassant. Je me protège. J'ai donné la vie de ma famille en pâture au monde. Je pensais que ça intéresserait au plus 1000 personnes, ce qui me semblait acceptable. Mais j'ai fabriqué un monstre que je ne contrôle plus. En Norvège, la polémique a été rude. Le tome 1 raconte l'alcoolisme et la mort sordide du père de Nosegard, un professeur et politicien local. Séparé de sa seconde épouse, le père Nosegard s'était installé chez sa vieille mère où il passait ses jours et ses nuits à boire. Quand il meurt, Karl Ove et son frère retournent dans la ville de leur enfance pour s'occuper de l'enterrement. Ce qu'ils y trouvent est horrible. Leur père a transformé la maison de leur grand-mère en immense dépotoir. Le linge sale côtoie des centaines de bouteilles vides, tout est recouvert par la crasse et les excréments. Le livre a été un véritable choc pour la famille, qui est partie en guerre contre l'écrivain, menaçant de saisir la justice, qualifiant son œuvre de littérature de Judas. Les révélations que fait l'écrivain sont en effet sensibles. Son ex-femme, une journaliste, a découvert qu'il l'avait trompé en même temps que le reste du pays. L'affaire a fait l'objet d'une émission de radio à laquelle Nosegard, sous la pression populaire, a été contraint de participer. Le pauvre s'est fait engueuler en direct par son ex-femme devant tout le pays. La presse s'est jetée sur son entourage le plus lointain, contactant jusqu'à l'ex-mari de sa belle-mère qui vivait reclus au fond d'un bois. Après avoir lu la prose de son mari, la femme de Nosegard est retombée dans la maniaco-dépression, une maladie dont elle était en rémission. Nosegard raconte en détail cette rechute dans le tome 6, assez largement consacré aux conséquences de son travail. Si j'avais su avant ce qui allait arriver, je ne l'aurais pas fait. Je n'en aurais pas été capable. Ce n'était pas mon but. Mais j'ai fait du mal à beaucoup de gens. Ils ne m'ont finalement pas attaqué en justice parce qu'ils auraient sans doute perdu. Mais ce que j'ai fait n'en est pas moins immoral. En écrivant les deux premiers tomes, j'étais très naïf. Il y a beaucoup de choses dans un couple qu'on ne dit pas parce que ce serait désastreux. Cette illusion nécessaire à l'amour, je l'ai brisée publiquement. C'est un désastre encore plus grand. Mais nous avons pu surmonter ça. On a discuté pendant plusieurs jours de façon très ouverte et très violente. Et puis on est lentement retourné dans l'illusion. On a pu reconstruire. Je hais ce que j'ai écrit. Cette haine n'est pas seulement due à la polémique, pas seulement due au scandale. Karl Ove Nosegard est devenu célèbre grâce à un livre qu'il n'a pas aimé écrire. Alors qu'il s'était fait connaître en Norvège par deux livres très littéraires, très travaillés, dont l'un a été couronné par l'équivalent du prix Goncourt. En revanche, Nosegard, pour son autobiographie, a refusé tout net de peaufiner, de polir, de réécrire. Voici les premières pages du tome 1, qui a pour titre « La mort d'un père ». Pour un cœur, la vie est une chose simple. Il bat aussi longtemps qu'il peut, puis il s'arrête. Un jour ou l'autre, ce mouvement scandé cesse de lui-même et le sang commence à refluer vers le point le plus bas du corps où il s'accumule en une petite flaque visible de l'extérieur comme une tache molle et sombre sur la peau de plus en plus blanche en même temps que la température baisse, que les membres se raidissent et que les intestins se vident. Ces transformations des premières heures se font si lentement et avec une telle assurance qu'elles ont quelque chose de rituel en elles, comme si la vie capitulait selon des règles précises, un genre d'accord tacite auquel même les agents de la mort se soumettent avant d'entamer leur invasion du territoire qui, elle, est irrévocable. Rien ne peut arrêter les hordes de bactéries qui commencent à se disséminer à l'intérieur du corps. Si elles avaient essayé, ne serait-ce que quelques heures plus tôt, elles auraient été combattues immédiatement. Mais là, tout est calme. Et c'est sans peine qu'elles s'enfoncent de plus en plus dans les zones sombres et humides. Elles abordent les canaux de Havert, les cryptes de Libercune et les îlots de Langérance. Elles atteignent la capsule de Bowman dans les néphrons, la colonne de Clark dans le corps spinal et la substance noire dans le mésencéphale. Puis elles touchent le cœur. Il est toujours intact, mais dépourvu du mouvement auquel toute sa construction était dédiée. On dirait un lieu déserté, comme un chantier que des ouvriers auraient abandonné en toute hâte, avec ses véhicules immobiles et brillants dans la nuit, ses baraquements vides et ses wagonnets pleins, suspendus, arrêtés dans leur ascension de la paroi rocheuse. Aussitôt que la vie quitte un corps humain, il appartient aux non-vivants. Les lampes, les valises, les tapis, les fenêtres, les terres, les marécages, les ruisseaux, les montagnes, les nuages, le ciel, rien de tout cela ne nous est étranger, et bien que nous soyons en permanence entourés d'objets et de phénomènes non vivants, il existe peu de choses qui provoquent en nous autant de désagréments que de voir quelqu'un pris par la mort. Du moins, à en juger par tous les efforts que nous faisons pour maintenir les cadavres hors de la vue. Dans les hôpitaux, ils sont cachés dans des chambres spéciales auxquelles on accède par des ascenseurs et des couloirs réservés. Et si par mégarde on s'y fourvoyait, on verrait que les cadavres y sont transportés, toujours couverts. Quand il faut les sortir de l'hôpital, on les fait passer par une porte spéciale et on les met dans des voitures aux vitres teintées. Dans les églises, ils disposent d'un endroit particulier, sans fenêtre, et pendant les obsèques, ils sont dans un cercueil fermé jusqu'à leur mise en terre ou leur crémation. On a du mal à discerner le côté pratique de cette façon de faire. On pourrait très bien transporter les cadavres à travers les couloirs des hôpitaux sans les couvrir et les mettre ensuite dans des taxis ordinaires, sans aucun risque pour personne. L'homme âgé qui meurt dans une salle de cinéma pourrait très bien rester dans son fauteuil jusqu'à la fin du film et même pendant la séance suivante. Le professeur terrassé par une attaque dans la cour de l'école n'a pas besoin d'être évacué immédiatement. Il n'arrivera rien, même si on ne peut s'en occuper qu'après l'école ou dans la soirée. Et quand bien même un oiseau se mettrait à le picorer, quelle importance ! Est-ce que ce qui l'attend dans la tombe sera mieux uniquement parce qu'on ne le verra pas ? Tant que les morts ne nous encombrent pas, il n'y a aucune raison de se presser. Ils ne mourront pas une seconde fois. C'est particulièrement vrai en hiver. Les sans-abri qui meurent de froid sur les bancs ou sous les porches, les candidats au suicide qui se jettent du haut des bâtiments ou des ponts, les vieilles qui tombent dans les pommes dans l'escalier, les victimes d'accidents coincées dans leur voiture, le jeune homme ivre qui tombe dans la mer après une soirée en ville, la petite fille qui se retrouve sous les roues d'un bus. Pourquoi cette précipitation à les cacher ? Par décence ? Quoi de plus décent que des parents qui puissent voir leur petite fille une ou deux heures après, sur le lieu de l'accident, allongée dans la neige ? Qu'ils puissent voir aussi bien sa tête broyée que le reste du corps intact ? Aussi bien ses cheveux ensanglantés que son anorak propre. Elle serait là, exposée au monde, sans secret. Mais même cette petite heure dans la neige est impensable. Une ville qui ne sait pas ôter ses morts de la vue, où l'on peut les voir dans les rues et les ruelles, les parcs et les parkings, n'est pas une ville, mais un enfer. Et que cet enfer reflète notre condition d'une façon plus réaliste et au fond plus vraie n'a aucune importance. Nous savons bien ce qu'il en est, mais nous ne voulons pas le voir. D'où cet acte de refoulement collectif, l'escamotage des corps morts. Mais dire ce qu'on refoule exactement est beaucoup plus difficile. Ça ne peut pas être la mort en soi, car elle est omniprésente dans la société. La quantité de morts mentionnées quotidiennement dans les journaux ou montrées aux actualités varie selon les circonstances, mais reste probablement à peu près constante d'une année sur l'autre. Et parce qu'en plus elle est relayée par de nombreuses chaînes de télévision, il est pratiquement impossible d'y échapper. Pourtant, cette mort-là n'est pas redoutable. Bien au contraire, on en redemande et on paie volontiers pour la voir. Si on ajoute à cela les énormes quantités de morts que produisent les fictions, on comprend encore moins bien qu'il faille par ailleurs les ôter systématiquement de la vue. Si ce n'est pas la mort en tant que phénomène qui nous effraie, pourquoi cette gêne devant les corps morts ? La façon dont nous escamotons les morts n'a jamais fait l'objet d'aucune discussion. C'est quelque chose qu'on a toujours fait par nécessité, que personne ne peut expliquer, mais que tout le monde connaît. Si ton père meurt sur la pelouse un dimanche d'automne balayé par le vent, tu le rentreras si possible dans la maison. Et si tu ne peux pas, au moins tu le couvriras. Cette réaction impulsive face aux morts n'est pas la seule que nous ayons. Il est tout aussi frappant de vouloir les mettre le plus vite possible au niveau du sol. On imagine mal un hôpital installer ses salles d'autopsie et sa morgue au dernier étage. Car les morts sont toujours entreposés le plus près possible de la terre. Et le même principe régit les institutions qui s'occupent d'eux. Une société d'assurance peut très bien avoir ses bureaux au 8e étage, mais pas une entreprise de pompes funèbres. Elles sont toutes au rez-de-chaussée. Il est malaisé de dire d'où ça vient, et on pourrait être tenté de croire qu'à l'origine de cette convention, il y avait une raison pratique. Que la cave était froide, elle était le meilleur endroit pour conserver les corps, et ce principe aurait été maintenu tel quel jusqu'à l'époque des réfrigérateurs et des chambres froides. Si ce n'était que le fait même de monter les corps dans les étages soit tout simplement contre nature, comme si hauteur et mort s'excluaient mutuellement, comme si nous possédions une sorte d'instinct, quelque chose de profondément ancré en nous, qui nous obligerait à mener nos morts en terre, cette terre d'où nous venons.
J'ai voulu montrer aussi dans ce livre, il se trouve que je haïssais mon père avant sa mort et j'étais absolument sûre de ça et on ne se voyait plus ou presque plus. Et puis quand il est mort, j'ai été soudain submergée d'un immense chagrin qui m'a envahi pendant plus d'une semaine. Je n'ai fait que pleurer, je me suis absolument effondrée devant son corps, devant l'état aussi dans lequel il avait laissé la maison de sa mère, puisque cette maison était devenue une espèce de chaos, de saleté. On a retrouvé des centaines de bouteilles avec mon frère. Jonchait le sol, les armoires de la cave au grenier et tout ça dans une crasse infinie avec ma grand-mère qui elle-même était dans un très très sale état de santé. Donc voilà, il y a aussi l'idée de ce combat-là, de ce conflit intérieur, d'où vient ce chagrin, donc quelle était cette relation au père. Et surtout, j'ai commencé à écrire quand moi-même je suis devenue père, j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, qui sont encore en bas âge, et donc mettre en perspective ce conflit en tant qu'adulte et en tant que père envers mon père fait partie des luttes menées dans ce livre.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux. Aux dernières nouvelles, Carl Ove Nosgaard est passé à autre chose. Personne ne semble savoir où il vit aujourd'hui. Malmö, Stockholm, Londres, il ne répond plus à aucune sollicitation depuis des semaines. Il se protège, répond son auditeur. Fragile, Nosgaard, hypersensible, qui écrit « La seule chose qui ne vieillit pas dans un visage, ce sont les yeux. Ils sont aussi nets le jour de notre naissance que le jour de notre mort. Certes, les vaisseaux capillaires peuvent y éclater et les membranes se matifier, mais leur lumière intérieure ne change jamais. » Fragile, vous dis-je. Révolté, athée, alcoolique, bancal, autocentré, qui raconte sa vie avec un souci obsessionnel du détail dans des opus où il ne se passe presque rien et qui sont pourtant captivants. Génial, Nosgaard. Où est-il passé d'ailleurs? Quelqu'un l'a-t-il croisé? C'est dans une pâtisserie du sud-est de Londres qu'on a fini par le retrouver. Il arrive, immense viking au visage christique, la barbe en broussaille, l'œil bleu, une vague ressemblance avec Brad Pitt. Il a l'air de s'excuser. « Je suis tombé amoureux, » dit-il. « Ah bon ? Tombé amoureux ? De l'Angleterre ?» Non, d'une femme. J'habite ici maintenant, en bas de la rue, avec deux de mes enfants. Mais comme les autres sont restés en Suède, je fais pas mal d'aller et venu. » Nous voilà rassurés. Chers auditeurs, merci. Cette émission sera rediffusée comme d'habitude dimanche à 14h et bientôt disponible en podcast sur notre site. Au mois de novembre, je vous ferai découvrir La folle du logis de la romancière espagnole Rosa Montero, un livre sur la création littéraire et la passion amoureuse, sur l'imagination que Sainte Thérèse d'Avila appelait précisément la folle du logis. À très bientôt sur Radio B.